Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce rendez-vous du journal du 21 janvier 2022 que nous ouvrons avec les principaux titres. En soupçonnant lynchage de la population contre un sous-officier de police en poste en commune Itawa, cet homme en uniforme de police a été retrouvé le matin de ce jeudi tué à coups de machette. Ses bourreaux ne sont pas encore connus, on en parle au début de ce journal. Le parti au pouvoir est appelé à faire preuve d'un esprit de tolérance politique. C'est le message de l'archevêque de Gitega, Mgr Simon Hamgana, lors de l'ouverture de la croisade organisée par le parti présidentiel, le CNDD-FDD. Les militaires de la mission de maintien de la paix en Somalie vont passer de 13 000 à 8 000 hommes d'ici la fin de l'année 2022. C'est le contenu d'une note publiée par le commandement des forces de la MISOM à la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Les forces dont le Burundi était jusque-là le premier contributeur. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. Josine Kazé, je suis à la présentation. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Sécurité routière pour commencer. Trois personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans deux accidents qui ont eu lieu cet avant-midi en province Ngozi. Les trois personnes ont péri dans la commune Gashikanoa lorsqu'une moto transportant trois personnes a percuté un véhicule de marque Probox. Les trois personnes qui étaient sur la moto sont mortes sur le champ. Un autre accident a eu lieu dans la même province Ngozi en direction de Bujumbura. En bus de l'agence Memento a failli être cogné par un autre de l'agence Cotracom lorsqu'il cherchait à dépasser un véhicule au niveau de l'endroit appelé Kinyale. Le chauffeur du bus de l'agence Memento a perdu le contrôle, cognant ainsi un arbre. Un bon nombre de passagers à bord a été blessé, dont le chauffeur du bus. Les blessés ont été admis dans différentes structures sanitaires du chef-lieu de la province Ngozi. Un sous-officier de police en poste au commissariat communal de Taba, en province Gitega, a été tué à coups de machette par des gens non encore identifiés. Cela s'est produit dans la nuit de ce mercredi. Les sources sur place parlent d'un lynchage contre cet homme en uniforme de la police. Il était en mauvais terme avec la population sur place, selon les mêmes sources. Benny Axelakana nous en dit plus.
Selon les sources recueillies par la radio Nzamba, sur le lieu du drame en commune Taba, Agihamagala, Minani Pierre, un sous-officier de la police nationale, était chargé de la logistique au commissariat communal de Taba. Nos sources disent que tout a commencé le 19 de ce mois, où Sieur Minani a engagé une dispute avec des gens. Sur place, selon nos sources, il y avait l'épouse du directeur communal de l'enseignement à Taba. C'est ainsi que dans la nuit, quand Minani rentrait chez lui, un groupe de gens lui a attaqué. Il a succombé à coups de machette par des gens non encore identifiés, comme le témoigne un des habitants de la localité.
Quand Minani est rentré chez lui, il aurait connu des problèmes en cours de route. Il a croisé des malfaiteurs qui lui ont attaqué à coups de machette. C'est la tristesse d'un côté, mais de l'autre, c'est quand même un ouf de soulagement pour les habitants de Gihamagala. Il nous a malmenés à plusieurs reprises. Nous demandons aux dirigeants de ce pays de garder à l'œil ce qu'ils envoient pour assurer la sécurité de la population dans les différentes régions. Nous ne comprenons pas du tout comment celui qui est censé assurer la sécurité des gens revient pour la perturber. C'est vrai, c'est la tristesse.
Vous saurez que 5 personnes, dont le propriétaire du bar, son employé, ainsi que l'épouse du directeur de l'enseignement en commune Itaba, ont été arrêtées.
L'organisation SOS Torture Burundi attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la persistance des violations graves des droits de l'homme au Burundi. Ceci est le contenu d'un bulletin mensuel de SOS Torture publié ce jeudi. Aimé Kwizera, chargé des programmes, trouve urgent que l'Union européenne, partenaire du Burundi, use de son influence pour amener le Burundi à coopérer non seulement avec le rapporteur spécial, mais aussi avec les autres mécanismes onusiens de droits de l'homme. Écoutez Aimé Kwizera.
Le 42e numéro du bulletin de justice de SOS Torture Burundi a été publié au lendemain d'une prise d'opposition inquiétante en décembre dernier par le chef de l'État, le président Evariste Ndayishimiye, de s'opposer à la coopération avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. La nomination de ce rapporteur spécial a pourtant été motivée par la persistance des violations des droits de l'homme au Burundi que nous avons évoquées sur base des rapports de différentes organisations des droits humains. Mais les hautes autorités comme le porte-parole du ministère en charge de la sécurité, le procureur général de la République et même le chef de l'État s'enlisent dans le déni de ces violations comme nous l'avons montré à travers des exemples bien précis et connu du public. Nous constatons alors que ce bras de fer du gouvernement avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est contre-productif car il n'offre pas de cadre de lutte contre ces violations à travers le dialogue entre les autorités burundaises et les Nations Unies autour des rapports et des recommandations que le rapporteur spécial produira. Nous attirons ainsi l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le risque élevé que les violations des droits de l'homme au Burundi soient à l'abri des regards de la communauté internationale si cette dernière se soumet aux caprices des autorités burundaises. Aux partenaires du Burundi, nous recommandons qu'ils usent de leur influence pour amener le Burundi à coopérer, non seulement avec le rapporteur spécial, mais aussi avec les autres mécanismes comme le Comité contre la torture et bien d'autres organes, d'autres traités des Nations Unies pour la protection des droits humains au Burundi.
Le rétablissement de la paix ne devrait pas être un prétexte pour persécuter ceux qui ne sont pas membres du CNDD-FDD. Tel est le message exprimé par l'archevêque de Gitega dans son homélie ce jeudi lors de l'ouverture de la croisade de prière organisée par le parti au pouvoir dans la ville de Gitega. Monseigneur Simon Hamrana a invité le parti présidentiel à faire preuve de tolérance politique et à asseoir une démocratie au Burundi. Écoutez un extrait de son homélie.
Nous apprécions le fait que vous vous atteliez au retour de la paix. Cependant, cela n'explique pas ces actes ignobles. Faire disparaître physiquement des personnes soupçonnées d'être malfaiteurs, alors que vous savez à quel point cela blesse et traumatise la population que vous êtes censé servir. Ce que je souligne ici n'est qu'un cas. Il y en a d'autres que je ne cite pas. Vous pourriez agir autrement, de sorte que vous ne laissiez pas de malédiction sur votre passage. Vous êtes appelé à manifester l'amour de Dieu. Cet amour qui vient de Dieu, cet amour que Dieu exige de vous, devient inexistant aujourd'hui. Vous-même devenez méconnaissable. On en arrive même à se demander qui vous êtes réellement et quel est votre objectif. En guise de réponse, nous restons sur notre soif. Accueillez la volonté de Dieu de tout votre cœur. En effet, cette volonté divine nous a déjà été révélée. Méditez-y et instruisez-vous mutuellement au cours de cette croisade de prière. Je vous exhorte, en tant que votre pasteur, partageant avec vous la charge de guider le peuple de Dieu, dans l'optique de consolider la foi, l'espérance et la charité, abandonnez ce qui vous éloigne de votre devise, qui dit « Nous avons placé Dieu avant tout ». Renforcez cette fameuse démocratie en permettant aux autres compatriotes de militer dans les partis politiques de leur choix. Nous savons par expérience qu'un parti politique qui s'installe et qui règne en maître en instaurant la dictature sur le pays a toujours conduit le pays dans le gouffre. Dans la gestion du pays, traitez-nous de la même façon, qu'il n'y ait plus de deux poids deux mesures. Ne cherchez pas à maltraiter ou ignorer ceux qui ne sont pas membres de votre parti.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Les forces de la mission de maintien de la paix en Somalie, MISOM, seront réduites de 13 000 à 8 000 hommes jusqu'en décembre 2022 dans le but d'assurer une transition progressive avec les forces somaliennes. Ceci transparaît dans une note restreinte du commandement des forces de la MISOM à la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. La MISOM prévoit de continuer à réduire ses troupes jusqu'à la fin de l'an 2023. Le Burundi étant le premier pays contributeur des troupes en effectif après l'Ouganda. Plus de détails avec Georges-Denis Meya.
Dans son document de 8 pages transmis à la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine, le commandant des forces de la MISOM, le lieutenant général Diomède Degueya, a indiqué qu'il est prévu une diminution des troupes de la MISOM de 4 000 hommes jusqu'au mois de juin 2022. Cela en préparation d'une transition en douceur de la MISOM avec une autre force. Dans son même document, il est également prévu une diminution de 4 000 hommes supplémentaires de juillet 2022 jusqu'au mois de décembre 2022. La réduction finale de 5 000 militaires se fera entre l'an 2023 et l'an 2024. Comme l'avait proposé l'Union africaine, la réduction des effectifs des militaires sera faite en parallèle avec une augmentation des effectifs des policiers. Le commandement de la MISOM se dit toutefois préoccupé car l'armée et la police ont des rôles différents mais plutôt complémentaires. Le Burundi est le second pays contributeur des troupes après l'Ouganda avec plus de 4 000 hommes. Les militaires burundais sont présents en Somalie depuis l'an 2007. Des sources militaires indiquent que les revenus à MISOM ont pu aider le pays à survivre durant la période des sanctions économiques de l'après-2015. Néanmoins, les militaires burundais du contingent à MISOM se plaignent toujours du retard des paiements des indemnités à MISOM. Actuellement, les militaires burundais de la MISOM, y compris ceux qui sont déjà relevés, réclament environ 10 mois d'arriéré.
Il s'observe une pénurie du sucre au Burundi, en particulier en mairie de Bujumbura. Le prix du kilo coûte entre 4 000 et 5 000 francs burundais. Les habitants de la mairie proposent la libéralisation dans la commercialisation du sucre dans le but d'éviter des éventuelles spéculations des commerçants grossistes. De son côté, la société sucrière du Mosso avait tranquillisé lundi dernier que ce problème sera résolu à partir de la semaine prochaine. Les détails avec Valérie Mucho.
Depuis au moins 2 ans, la pénurie du sucre est presque permanente et la situation s'empire au fil du temps. Dans la mairie de Bujumbura, par exemple, certaines familles affirment qu'elles peuvent passer 5 mois sans avoir le sucre. Et pour d'autres, pas la peine d'essayer de chercher cette denrée devenue si rare, puisque son prix est de toute façon inaccessible pour leur portefeuille.
Les consommateurs du sucre en mairie de Bujumbura souffrent énormément. Le kilo qui s'achetait à 2500 francs burundi, par de chances actuelles, tu peux le trouver à 4000 ou à 5000 francs burundi. Mais tu ne peux pas espérer l'avoir sans que tu n'achètes pas un autre produit.
La société publique de production de sucre, la Sosumo, semble nier la réalité. Son porte-parole, Jean-Pierre Nzobandora, s'est exprimé à la radio nationale sur la question. La Sosumo n'a pas de problème de production, mais plutôt celui de logistique pour pouvoir assurer le transport de sa production vers les différentes provinces du pays. Une question qui ne sera résolue qu'à partir de la semaine prochaine, selon toujours le porte-parole.
Le problème de la carence du sucre est connu et surtout au problème de transport, parce que le sucre que nous vendons vers les dépôts régionaux est transféré avec des camions. Alors, il y a eu un problème qui a été relevé. Le peu de camions que nous avons reçu au cours de cette dernière semaine, ça nous a permis de servir en date du 13, du 14. Pour le moment, nous avons aussi reçu des camions. Il y a aussi des convois qui sont en cours de route. Mais à partir de la semaine prochaine, je peux assurer aux consommateurs du sucre que le produit sera disponible dans nos dépôts.
Les habitants de Bujumbura ne croient pas en ces explications de la Sosumo. Ils pensent plutôt que cela est dû au monopole de la commercialisation du sucre attribué à certains grossistes qui créent une pénurie artificielle pour leurs intérêts.
Il faut que le gouvernement crée d'autres sociétés qui produisent le sucre en plus de la Susumu. Donner la chance à tous qui souhaitent vendre le sucre, au lieu de compter sur une ou deux personnes qui ont la permission de vendre le sucre, cela permettait que chacun s'approvisionne n'importe quand.
Cependant, la Susumu, comme d'autres entreprises du Burundi, souffre d'un manque criant de devises pour se procurer des matières premières à l'étranger. Ne pouvant pas satisfaire le marché intérieur en sucre, la Susumu avait octroyé un marché d'importation du sucre à la société Itracom afin de combler le déficit du sucre sur ce marché burundais. Itracom lui fournissait donc le sucre venu du Mali ou du Brésil. Actuellement, l'importation du sucre depuis ces deux pays souffre du manque de devises étrangères.
C'est toujours la pénurie des produits de la Brarudi dans la province de Lumongue. Les consommateurs de ces boissons confirment la rareté de la bière, même dans les cabarets où les prix se trouvent exorbitants, selon les mêmes sources. Les consommateurs demandent aux autorités administratives de trouver une solution à cette pénurie. Le point avec Vanessa Mouriteka.
Depuis le début du mois de janvier, les habitants de la province Lumongue observent une pénurie des boissons de la Brarudi dans la buvette de cette province. Dans plus de buvettes où on en trouve, le prix de ces produits a été revu à la hausse. L'exemple typique donné par ces habitants est celui de l'Amster Blonde. Il est vendu à un prix variant entre 2500 et 3000 francs burundais. Son prix officiel est de 1900 francs burundais. Certains commerçants ayant les moyens sont contraints d'aller à Bujumbura ou dans la province de Burundi à la queue de ces boissons.
La question de manque de boissons est devenue un casse-tête dans la province de Lumongue, car même les buvettes ont fermé à cause de cette pénurie. Ceux qui ont les voitures peuvent aller chercher ces boissons dans la province de Burundi ou à Bujumbura, ce qui est extrêmement cher pour un petit commerçant.
Toutefois, des camions remorques de cette brasserie déchargent chaque semaine des Amster Blondes en destination de la République démocratique du Congo, ce qui déplaise de plus les habitants de Lumongue. Ils demandent à l'autorité provinciale de prendre la question en main.
Ce qui ne nous plaît pas est de voir les remorques transporter les boissons deux fois la semaine vers le Congo et on se demande le pourquoi de cette carence alors que notre voisin, le Congo, continue à en avoir. Nous demandons aux autorités administratives de prendre cette question en main.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore réussi à joindre par téléphone le délégué commercial de la Brarudi dans la province du Lumongue pour plus d'éclaircissements sur cette pénurie.
16 équipes qui joueront les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévues à partir du 23 février prochain sont toutes connues depuis hier. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a été éliminée pendant la phase de groupe. Les détails avec Alexandre Niongeko.
La première phase de la Coupe d'Afrique des Nations s'est clôturée ce jeudi. Une phase qui a été caractérisée par plusieurs surprises. Commençons par l'Algérie, championne en titre, qui a été éliminée dès le premier tour après sa défaite contre la Côte d'Ivoire sur un score de 3-1. Cette équipe quitte la CAN sans gagner aucun match. Un autre pays classé parmi les géants du football africain, à savoir le Ghana, a été également éliminé dès cette phase de groupe. À côté de ces trois pays, on observe d'autres surprises de cette 33e édition. Ce sont les Comores et la Gambie qui participent pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations et qui du coup se qualifient pour les huitièmes de finale. Les autres pays qui se sont bien comportés sont le Cameroun, pays hôte qui termine premier de son groupe avec 8 buts marqués. Vincent Aboubakar, le capitaine de cette équipe, en a marqué à lui seul 5 buts. Il est actuellement meilleur buteur de cette compétition. On citera également la Côte d'Ivoire, bourreau de l'Algérie, et sans oublier le Nigeria, seul pays à gagner tous les matchs joués. Une autre chose qui a été souvent décriée et par les joueurs et par les coachs, c'est le mauvais état des terrains qui ne permet pas aux joueurs de s'exprimer correctement. L'affluence au stade n'était pas également au rendez-vous. Certains matchs se jouaient dans des stades presque vides. La cause, le Covid-19. Les supporters sont obligés de faire des tests chaque fois qu'ils vont assister au match. Signalons également que c'est pour la première fois qu'une femme arbitre un match de la Coupe d'Afrique des Nations. La Rwandaise Salma Khadia Mukansanga est la première femme qui a officié la Coupe d'Afrique des Nations depuis la première CAN organisée en 1957 à Khartoum, au Soudan. Des matchs de huitièmes de finale débuteront ce dimanche par la rencontre qui opposera le Ghana au Burkina Faso à 18h. À 21h, le Nigeria jouera contre la Tunisie. Le 24, la Guinée accueillera la Gambie et le Cameroun jouera contre les Comores. Le 25, le Sénégal affrontera le Cap-Vert et le Maroc croisera le fer avec le Malawi. Le 26, il y aura un choc entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte à 18h et à 21h. Ces matchs seront clôturés par la rencontre qui opposera le Mali à la Guinée équatoriale. Après ces rencontres, les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale seront connus.
Merci Alexandre Nyongakwe, c'est sur la Coupe d'Afrique des Nations que je mets en point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis, passez un très bon week-end à tous, au revoir et à la prochaine.